RFI Matin, 8h20, à Paris, votre invité, Frédéric Rivière. Vous recevez Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière.
Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Ce 5 octobre est une journée de mobilisation syndicale à l'appel de Force Ouvrière, la CGT, FSU et Solidaire. Vous dites que ça n'est pas la traditionnelle manifestation de rentrée sociale, alors de quoi s'agit-il ?
Ben, il s'agit de donner un signal, je le dis parce qu'on est aussi dans une période où la campagne pour l'élection présidentielle domine de plus en plus, à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui comme à celles ou ceux qui aspirent à nous gouverner demain. Ça s'adresse aussi aux organisations patronales sur les questions de salaire, de pouvoir d'achat. On en a parlé beaucoup, évidemment, ces derniers jours du fait de la reprise de l'inflation avec le coût de l'énergie qui s'envole, l'essence, l'alimentation. Et puis, ce que nous voulons dire aussi, c'est que on l'espère, en situation de sortie de crise sanitaire, de sortie donc progressive de reprise de l'activité. Et ce que nous ne voudrions pas, c'est que le quoi qu'il en coûte devienne un quoi qu'il en coûte aux salariés, au prétexte qu'il va falloir rembourser ce qu'a coûté la crise sanitaire. Donc je pense évidemment en particulier au sujet des retraites. On a entendu l'ex-premier ministre parler de 65, 66, 67 ans. On entend le Premier ministre nous dire qu'il faudra de toute façon travailler plus longtemps. Le président de la République lui-même, le 12 juillet, avait conclu son propos sur les retraites de la même manière. Il faudra partir à la retraite plus tard. Et puis, nous voulons aussi dire, puisque nous sommes au tout début octobre, nous avons déposé un recours au Conseil d'État que nous protestons, contestons, et nous allons faire en sorte d'empêcher la mise en œuvre de cette réforme de l'assurance chômage.
Alors, vous avez balayé un peu tous les sujets. On va revenir sur certains d'entre eux. Donc le pouvoir d'achat est au cœur des revendications d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de monde ? Et s'il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce que vous n'affaiblissez pas vos revendications ?
Il y aura du monde, ça c'est sûr, puisqu'on a comptabilisé plus de 200 manifestations organisées à travers tout le pays, dans certains départements, plusieurs départements, il y a plusieurs manifestations dans des villes différentes. Il y a des secteurs qui sont très mobilisés, la grande distribution par exemple, à Carrefour sur la question des salaires. On mobilise en ce moment sur la question des salaires également dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, et il s'agit de booster les négociations dans ces secteurs. Il s'agit de booster aussi les négociations de branches sur les salaires, partout où le SMIC rattrape les minima, et pour booster la réévaluation de l'ensemble des grilles de salaire.
Donc, il y a la question... Dans les cortèges aujourd'hui, il y aura du monde à Paris, par exemple ?
Oui, on aura du monde. On va voir ce que cela va donner. Mais il était important, dans ce moment, que l'on dise très clairement que sur ce qui relève des questions sociales, du travail, du salaire, de la protection sociale, des retraites, de l'assurance chômage, du service public, les syndicats étaient là pendant la crise sanitaire. On s'est mobilisés pour défendre les droits des salariés. On est là aujourd'hui et on sera là demain.
Est-ce que les salaires sont vus traditionnellement en France comme, en quelque sorte, ennemis de l'emploi ?
C'est un peu le problème. Le gouvernement utilise beaucoup d'artifices pour éviter d'avoir à augmenter les salaires face à l'augmentation des prix. On a entendu le Premier ministre...
Il peut augmenter les salaires pour les fonctionnaires, mais
il peut augmenter le SMIC, plus que l'augmentation réglementaire. Les 2,2 d'augmentation du SMIC au 1er octobre, ça n'est que le rattrapage de l'inflation passée, des 12 mois passés. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'anticiper sur ce qui va frapper dans les porte-monnaies dans les semaines et les mois qui viennent, notamment cet hiver. Donc le gouvernement peut agir sur le SMIC, peut agir sur le salaire des fonctionnaires et on le sait, le Premier ministre l'a reconnu lui-même, il exerce, nous dit-il, une pression, le gouvernement, sur les branches, les conventions collectives dans lesquelles les salaires, les grilles de salaire sont inférieures au SMIC. Le SMIC est un booster aussi des négociations de grilles pour la réévaluation des grilles de salaire dans les branches sur l'ensemble des classifications.
Le président de la République a annoncé il y a quelques jours la prochaine défiscalisation des pourboires pour les employés des bars et des cafés et des restaurants. Est-ce que cette mesure a un intérêt puisque l'on peut supposer que les pourboires étaient jusqu'à maintenant versés en liquide, puisque ceux qui ne seraient plus fiscalisés seraient ceux qui seraient payés par une carte de paiement. Jusqu'à maintenant, ils étaient versés en liquide, donc par définition pas fiscalisés, non ?
Non, mais très clairement, c'est pas la réponse. C'est pas la réponse qu'attendent les salariés, en tout cas aujourd'hui. Ce qu'on attend nous, c'est de réelles réévaluations de salaire. Vous disiez, est-ce que le salaire est l'ennemi de l'emploi ? Oui, du point de vue du gouvernement, systématiquement, on prend des dispositions qui sont souvent des aides publiques aux entreprises, ou la prime d'activité, c'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui paye la prime d'activité, la prime pouvoir d'achat, la prime Macron, la prime Covid, comme vous voulez les appeler, qui sont désocialisées. Défiscalisés, c'est-à-dire qui ne sont pas prises en compte pour le financement de la sécurité sociale et qui ne sont pas prises en compte le moment venu pour les droits à la retraite des salariés concernés. Quand vous êtes au SMIC, que vous touchez la prime d'activité, lorsque vous arrivez au moment de la retraite, vous paumez direct les 100 euros de la prime d'activité et ensuite, votre retraite n'est calculée que sur la part de SMIC réel. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter les salaires et moi, je conteste que le salaire soit l'ennemi de l'emploi. On le voit aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les faibles salaires, les mauvaises conditions de travail qui font que certains emplois ne trouvent pas preneur parce que ils ne suffisent pas en termes de rémunération pour finir les fins de mois correctement.
Le Consortium international des journalistes d'investigation vient de faire de nouvelles révélations sur l'ampleur du phénomène de l'évasion fiscale. Près de 600 Français sont épinglés dans cette enquête. Il y aurait dans ces sommes, est-ce que vous vous dites qu'il y aurait dans ces sommes astronomiques qui échappent à la fiscalité, à l'impôt, de la marge de manœuvre pour la dépense publique ?
Ben, si vous vous souvenez, au mois de février 2021, le même consortium de journalistes avait révélé que 10 à 15 000 Français possédaient l'équivalent de 100 milliards d'euros en actifs placés au Luxembourg, paradis fiscal. 100 milliards d'euros, c'est 4% du PIB, c'est l'équivalent du plan de relance du gouvernement dans le contexte de la sortie de la crise sanitaire. Donc effectivement, il y a des marges de manœuvre, c'est aussi pour ça que aujourd'hui nous mobilisons sur la question des moyens des services publics. On l'oublie, mais les services des finances, par exemple, sont confrontés à un vaste plan de réorganisation, restructuration, subissent, comme d'autres, mais de manière plus nette, des suppressions d'emplois, là où on a besoin, au contraire, de renforcer les moyens des services de l'administration des finances pour contrôler, notamment, tout ce qui relève de l'évasion, de l'optimisation fiscale.
Vous avez évoqué la crise sanitaire. Est-ce que votre organisation se préoccupe de la perspective de la prolongation du pass sanitaire? Le gouvernement voudrait se donner la possibilité d'y recourir à sa guise jusqu'au moins à l'été prochain.
On est dans des situations où ça a été face au terrorisme, ça a été face à la crise sanitaire. Les gouvernements ont pris des mesures qualifiées d'état d'urgence qu'ils ont parfois même pérennisées dans le droit commun et qui perpétuent des situations de restriction des libertés. Quand elles sont justifiées du point de vue de la situation terrorisme ou sanitaire, ok, mais quand elles ne le sont plus, il faut y mettre fin le plus rapidement possible pour qu'on rétablisse pleinement un état de droit démocratique où on puisse jouir des libertés. Vous me parliez de la mobilisation aujourd'hui. Les restrictions pèsent sur la capacité de s'exprimer librement, y compris en manifestant.
Merci Verrier. Bonne journée.